Médias d'Afrique, Alain Focat.
L'armée libanaise contre les islamistes. C'est le titre en manchette du quotidien français Le Figaro de ce mardi 22 mai qui commente, comme quasiment toute la presse internationale, ce nouvel épisode de l'histoire mouvementée du pays du Cèdre. Pas loin de là, c'est un autre conflit qui retient l'attention des médias. Les raids aériens israéliens dans la bande de Gaza qui répondent aux tirs de roquettes du Hamas sur le sud de l'État hébreu. Des troubles qui relancent le débat sur l'instabilité dans cette région du Proche-Orient et sur le rôle de la Syrie et les grandes puissances dans cette nouvelle flambée de violence. Deux événements auxquels la presse africaine accorde curieusement pas mal d'espace, avec parfois un regard assez singulier sur les raisons de cette crise, tout comme sur celle qui secoue la Somalie sans qu'elle puisse compter sur le retour des nations riches. Après les multiples éditions proposées toute la journée par les médias occidentaux, qui grâce à leurs impressionnants moyens techniques et financiers arrosent la planète entière, je vous propose, comme tous les jours à la même heure, la version africaine de l'actualité internationale. Le monde et ses convulsions vues par les éditorialistes du sud du Sahara. Un invité nous accompagne aujourd'hui dans notre traversée du continent. Youssef Djebri, l'auteur d'un roman, d'un ouvrage lui aussi d'actualité. Le manuscrit d'Hicham, destiné marocaine. Une tragique histoire d'immigration qui vaut la peine d'être lue, surtout en ce moment où la question suscite de part et d'autre beaucoup de passion. Bonjour Youssef.
Bonjour Alain Foucault.
Merci de rester avec nous. Et puisque nous sommes mardi, la seconde partie de cette émission sera entièrement consacré à l'actualité des médias du paysage audiovisuel subsaharien, avec Sarah Sacco. Riyad et Washington derrière les affrontements libanais. C'est la lecture que fait le quotidien français L'Humanité de la guerre qui secoue à nouveau le pays. Pour lui, sous couvert de faire respecter la justice internationale, la partition jouée par les Occidentaux et leurs alliés dans la région envenime les tensions internes au pays du Cèdre. Un point de vue que partage un bon nombre d'éditorialistes africains qui restent persuadés que cette irruption d'un nouveau mouvement sunnite fondé par d'anciens membres du Fatah Intifada, Fatah Ali, l'islam est la conséquence directe de la politique arabe des États-Unis d'Amérique. Elle est la résultante des frustrations connues par certains dans les territoires occupés, du chaos installé en Irak et en Afghanistan, du désordre suscité au Liban et de la lenteur à mettre sur pied un véritable tribunal international pour juger les auteurs de l'assassinat de Rafik Hariri. Pour un bon nombre de confrères subsahariens, il est à craindre que le chaos au Proche et Moyen-Orient ne suscite beaucoup d'autres mouvements violents de cet ordre. Et quelques-uns, toujours dans les rédactions africaines, de s'étonner que les grandes puissances occidentales, notamment les États-Unis d'Amérique, dont on vante tant les services de renseignement, n'aient pas pu venir, n'aient pas su qu'un tel mouvement projetait de s'attaquer à l'administration libanaise. Hamad Makaïla, N'Djamena au Tchad.
Le pays du Cèdre renoue avec la folle violence. Les images insoutenables font le tour du monde avec ceci de plus grave, l'amateurisme d'une armée prise au dépourvu face à une guérilla. Une guerre faite dans un camp de réfugiés, une armée libanaise qui pilonne à l'artillerie lourde un camp de réfugiés, le camp Nahr el-Bared, au mépris de tout ce que le droit international pourrait permettre. Les pays puissants du monde, pourtant très impliqués dans la région, qui ont tous vu sans doute venir la crise, ne trouvent rien à dire qu'à condamner les agissements d'un prétendu groupuscule prénommé Fatah l'Islam. Pour sûr, ce mouvement n'a pas surgi de nulle part. Et les services secrets américains et israéliens ne peuvent afficher une telle défaillance, eux qui fouillent à la loupe cette région, à moins qu'elle ne soit une crise délibérément voulue, puisqu'elle oppose pour le moment en tout cas les Libanais à un groupuscule plus ou moins proche des mouvements palestiniens. Mais ceci n'est vrai qu'à court terme. L'escalade n'est guère rassurante. Le drame actuel des civils palestiniens est une interpellation à la conscience du monde entier. La fuite en avant de l'armée libanaise est peut-être du ressort de sa responsabilité. Elle répondra tôt ou tard. Mais le reste des acteurs ont également une responsabilité, à commencer par la Syrie qui a gouverné le Liban pendant 30 ans. La crise politique interne, l'hypothétique élection présidentielle prévue pour septembre où seul le général Aoun a osé se déclarer et la question du tribunal Rafik Hariri sont autant des dilemmes que les Libanais seuls ne sauraient résoudre parce qu'ils ne détiennent pas tous les leviers. À chacun donc de jouer sa partition.
Cette crise au Liban, cette nouvelle escalade qui met les civils entre deux feux, c'est tous les éditorialistes africains qui semblent tout de suite établir un lien avec celui qui secoue les territoires palestiniens, avec un grand nombre qui évoque la responsabilité des grandes puissances. Les grandes puissances qui ne parviennent pas à anticiper, les grandes puissances qui n'ont pas soutenu quand il le fallait le Fatah et qui recusent ensuite le Hamas. Les grandes puissances qui ont laissé se pérenniser et se ghettoiser les camps des réfugiés palestiniens au Liban. Comment dans ces conditions s'étonner de la prolifération des mouvements extrémistes? Comment ne pas imaginer que ces camps et les mécontentements qu'ils engendrent deviennent des terreaux particulièrement fertiles pour les recrutements de combattants islamistes? Rodrigue Tueno de la Radio Nationale Camerounaise à Bamenda.
Pour la troisième journée consécutive, les combats font rage entre l'armée libanaise et les militants du groupuscule islamiste palestinien Fatah al-Islam, retranché dans un camp de réfugiés palestiniens en périphérie de Tripoli, dans le nord du Liban. Au-delà du droit légitime du Liban d'empêcher que l'on se serve de son hospitalité et de sa compassion à l'égard du peuple palestinien martyrisé pour le déstabiliser, ces affrontements ont le mérite de secouer la conscience de la communauté internationale une fois encore sur le sort du peuple palestinien. Un sort qui reste précaire. Oubliés de l'histoire et des négociations, les Palestiniens qui majoritairement vivent dans des camps se voient à nouveau propulsés sur le devant de la scène politique internationale. Ces camps de réfugiés palestiniens sont régulièrement présentés comme des zones de non-droit qui abriteraient des criminels, des extrémistes islamistes, mais on oublie très souvent que ces camps, ce sont des dizaines de milliers de personnes attachées à leur identité, à leur histoire, et non quelques illuminés ou quelques incontrôlables qui sont, on ne le dit pas très souvent, le produit d'une précarisation et d'une impasse politique. Les Palestiniens du Liban ont été les oubliés des accords d'Oslo de 1993, l'OLP concentrant ses efforts diplomatiques sur la Cisjordanie et Gaza. Avant cela, l'invasion israélienne de 1982 et le départ forcé de l'Organisation de libération de la Palestine et de ses combattants ont marqué un tournant. L'OLP fournissait du travail à près de 65% des Palestiniens et assurait le financement des structures sanitaires et éducatives également ouvertes aux populations libanaises démunies. Enfin, les fonds des pays européens ont été détournés vers la Cisjordanie et Gaza et les budgets que l'UNRWA, l'Office de secours des Nations Unies, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales internationales consacrées au Liban ont été drastiquement réduits. Les camps, touchés de plein fouet par la guerre et les difficultés économiques, sont devenus des espaces de repli et un terrain fertile pour les organisations islamistes. Les combats actuels au nord du Liban viennent donc tout simplement rappeler que l'évolution du conflit israélo-arabe et la paix au Proche-Orient sont étroitement liés à la solution du problème des réfugiés palestiniens.
Media.afrique@rfi.fr.
La FESI, la Fédération étudiantine de Côte d'Ivoire, qui avait fait vaciller au début de la décennie 90 le régime du président Oufouette Boigny, refait parler d'elle. C'était l'époque de Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, menée par l'actuel président Laurent Gbagbo. Cette fois-ci, la FESI, excédée par la grève des enseignants de l'université d'Abidjan, qui dure depuis le mois de mars dernier, a lancé une expédition punitive hier dans les locaux de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO, avec un détachement de 200 étudiants en colère qui a saccager ces locaux. Si quelques éditorialistes africains comprennent la colère des étudiants qui veulent absolument sauver leur année académique, ils désapprouvent presque tous la méthode qui consiste à se faire justice. Pour eux, l'absence de réaction des autorités ivoiriennes favorise cette pratique qui a été souvent utilisée par les mouvements politiques comme les jeunes patriotes qui ont secoué le pays ces dernières années. Certains meneurs ont même été propulsés ministres. Et l'actuel Premier ministre Guillaume Soro est également issu de cette fessie très active de l'époque. Salif Sanou de l'Office des radios et télévisions du Mali à Bamako.
La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Combien de fois a-t-on entendu cela sur le continent? Mais on oublie toujours de se demander quelle jeunesse pour quel avenir. Car avec une jeunesse rebelle, avec les nerfs à fleur de peau, l'on se demande bien de quoi demain pourrait être fait. L'illustration nous vient des mouvements syndicaux, scolaires ou étudiantins. Non content du soutien supposé de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, aux professeurs, un commando de la FESI, la Fédération des scolaires ivoiriens, a mis à sac le siège de la structure de la société civile. Une mise à sac suivie d'un meeting et tout cela au nez et à la barbe des forces de police qui n'ont pas daigné intervenir. S'il est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'on est dans un contexte de réconciliation nationale et de consolidation de la paix, de tels actes qui sont loin d'être isolés n'envoient pas un bon signal. Depuis l'avènement de la démocratie en Afrique, on a assisté au renforcement du pouvoir de nuisance des mouvements et syndicats scolaires. Censés au départ défendre les intérêts pédagogiques et moraux de leurs camarades, ces structures se sont vite transformées en mouvements politiques déguisés. Ainsi, selon leurs intérêts ou leurs sympathies, ils peuvent déstabiliser tel régime en place ou fragiliser l'opposition. En leur sein, démocratie ne rime pas forcément avec la contestation du chef. D'ailleurs, à l'heure du pluralisme syndical, rares sont les pays africains dans lesquels on retrouve plusieurs mouvements syndicaux. Une seule structure s'érige en défenseur des droits des élèves et étudiants. À l'arrivée, les dirigeants gèrent plutôt leur propre devenir. La quasi-majorité d'entre eux a embrassé la carrière politique. Au Sénégal, par exemple, certains sont devenus ministres comme Modou Diagne Fada. Au Mali, le docteur Oumar Mariko a été candidat à l'élection présidentielle 2 fois. Ailleurs, d'autres occupent des postes stratégiques et en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est devenu Premier ministre. Avec ces nombreux exemples, de nombreux jeunes estiment que l'entrée dans ces syndicats constitue le meilleur raccourci pour se faire une place au soleil. Et comme les pouvoirs locaux laissent toujours faire, il y a fort à parier que des dérapages comme le saccage des locaux de la Lido ne s'estompent et que certains responsables scolaires et étudiantins ne se croient au-dessus de la loi.
La France se met au vert. C'est le titre en manchette du quotidien français La Croix, daté de ce mardi, qui revient comme quasiment toutes les parutions nationales sur la rencontre hier à l'Élysée du chef de l'État Nicolas Sarkozy avec les principales associations de défense de l'environnement en vue de la préparation du Grenelle de l'environnement. Un entretien salué par tous et même par les écologistes les plus durs. Une nouvelle initiative qui entretient le débat sur le nouveau chef de l'État qui ne perd pas de temps, qui est déjà au travail. Un acharnement à la tâche qui séduit de plus en plus de journalistes africains qui ne cachent plus leur envie de voir leurs dirigeants en prendre de la graine. Et même s'ils continuent de dénoncer ces choix dans le domaine de l'immigration, ils estiment, devant les nouvelles vagues de clandestins interceptées sur les côtes espagnoles et italiennes, venu le moment pour les dirigeants subsahariens d'élaborer une politique qui mette un terme à ces départs désespérés qui entretiennent une image négative de l'Afrique. Justement, Youssef Djebri, le drame de l'immigration, c'est le thème de votre dernier ouvrage, sorti depuis quelques jours seulement aux éditions du signe, le manuscrit d'Hicham destiné marocaine. C'est le titre de ce roman fiction qui parle du désespoir d'un jeune diplômé marocain qui ne voit pas son avenir dans son pays, comme d'ailleurs beaucoup d'autres de son âge. Il va donc prendre la décision de le quitter pour rejoindre un ami en France, un cousin. Mais là, il est confronté à l'écueil des visas. Ne l'obtenant pas, il décide de rejoindre l'Europe à la nage par le détroit de Gibraltar qui sépare l'Afrique de l'Europe. Mais avant de partir, avant de se lancer dans cette folle aventure, il écrit une lettre à son cousin. C'est autour de cette lettre que se construit l'histoire. Déjà, est-ce, Youssef Djebri, une histoire vraie? Est-ce votre histoire à vous?
Non, ce n'est pas mon histoire. Hicham, ce n'est pas moi, bien évidemment. Toutefois, je pense que dans chaque œuvre romanesque, il y a toujours une part d'autobiographie, qu'elle soit consciente ou inconsciente.
Puisque vous-même, vous êtes venu du Maroc.
Tout à fait. Moi-même, j'ai rêvé, rêvé ardemment de quitter le Maroc.
Vous avez pensé à la solution à la nage par le détroit de Gibraltar à un moment donné?
Non, mais j'étais vraiment dans un... Je rêvais constamment, c'était une idée fixe.
Mais pourquoi rêviez-vous tant de l'Europe? Est-ce que c'était si mauvais que cela au Maroc? Le Maroc où tout le monde se rue
chacun
au soleil?
Chacun a sa propre histoire et je pense que celle d'Hicham est intéressante parce qu'elle les explique. Toutes les motivations, elles sont diverses, qui poussent des jeunes Marocains, riches ou pauvres, diplômés ou non diplômés, à vouloir quitter le Maroc.
Lorsque l'on vous lit, on a l'impression que vous trouvez des raisons à tous ceux qui prennent d'importants risques pour rejoindre l'Europe. Que sur place en Afrique et dans le cas d'espèce au Maroc, il n'y a pas beaucoup de place pour le rêve, pour le succès, pour les jeunes.
C'est à la... Oui, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a quelques lueurs d'espoir quand je vois le succès rencontré par la scène rap marocaine actuelle casablancaise. Je vois que des chanteurs engagés d'une vingtaine d'années qui osent bousculer les tabous et dire clairement ce qu'ils pensent. me fait plaisir et c'est une lueur d'espoir. Le succès du film Maroc, par exemple, c'est une jeune réalisatrice marocaine qui...
Mais
qui
à vous entendre, on a l'impression, au-delà de ce que vous dites, que la beauté du Maroc s'est surfait par les médias, qu'on dissimule certaines choses, certaines réalités.
Bien évidemment, les médias occidentaux présentent le Maroc comme le pays des mille et une nuits. Il faut que ça reste le pays des mille et une nuits, le pays où on achète des riades, où les hommes politiques européens ont des maisons de secondaires, où les artistes européens ont des maisons secondaires.
Mais des Marocains aussi.
Tout à fait. Mais maintenant, le Maroc, c'est autre chose. Le Maroc, c'est aussi une majorité de personnes analphabètes. Le Maroc, ce n'est pas uniquement Casablanca et Marrakech. Le Maroc, c'est aussi le pays où beaucoup de gens vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Le Maroc, c'est un pays où encore, c'est mon pays, je l'aime et c'est pour ça que je le défends. C'est un pays où encore, à l'heure actuelle, on peut aller en prison pour simple délit d'opinion.
Alors, qu'est-ce qui pèse tant sur les épaules des jeunes? Quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a une chape de plomb. C'est la religion, ce sont les traditions ou la monarchie?
Les trois à la fois. Les trois à la fois.
Comment cela se manifeste?
Bah, tout simplement par la justice. Il est toute personne qui porte atteinte à l'islam, à l'intégrité territoriale, ou tient des propos désobligeants envers le roi, les princes et les princesses, peut faire de la prison, peut être condamné à...
On a l'impression que la religion, ça vous pèse beaucoup. Je vais lire un petit passage qui m'a intéressé, qui dit « Le prophète dit, tout divertissement n'est que pure vanité. Aucun n'est digne de louange, à l'exception de trois d'entre eux, à savoir dresser un cheval, plaisanter avec sa femme et tirer à l'arc. Ceux-ci sont certainement bons. Alors que faisons-nous? Devons-nous interdire la pratique du football, la natation, le surf, l'escalade et le jet-ski, sous prétexte qu'ils ne furent inventés qu'après la mort du prophète ?» Vous pensez que une partie du Coran est un peu dépassée, n'a pas tenu compte des réalités d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. À un moment donné, Hicham dit que le prophète est passé au...
Bon, on va dire Hicham, si
oui,
vous le voulez.
Oui, tout à fait. À un moment donné, Hicham dit que le prophète a intégré le panthéon des héros dépassés. C'est juste pouvoir dire avec sans qu'il y ait polémique, sans que les gens s'énervent autour, pouvoir dire que le prophète est un être humain et que...
Et qu'il est d'une autre époque.
Et ce n'est pas parce que je dis cela que je lui manque de respect et que je suis forcément un non-croyant. La religion est une histoire personnelle et pouvoir en parler librement, c'est important. À l'heure actuelle, au Maroc, on vit une période difficile. Des attentats islamistes, sont organisés. L'islam a un point important, l'islam est religion d'État, il est important que des intellectuels, des penseurs, des écrivains, des cinéastes, des réalisateurs ou tout simplement des citoyens prennent la parole et disent que l'islam c'est une affaire personnelle et que pouvoir parler du prophète et pouvoir remettre en cause certaines idées et certains préceptes de l'islam, ce n'est pas forcément être un mécréant.
Merci, je rappelle le titre de ce roman fiction, Le manuscrit d'Hicham, destinée marocaine, publié aux éditions d'Issigne. Merci de nous avoir si bien accompagné, Youssef.
Merci à vous.
Média d'Afri revient dans 10 minutes, juste après le journal. Il sera question dans la deuxième partie avec Sarah Sacco dans l'actualité des médias africains de la télé-réalité version malienne, avec des candidats qui vivent 24 heures sur 24 avec des caméras. Cela vaut le détour. Et bien sûr, nous terminerons, comme tous les jours, par le répondeur où vous pouvez continuer de déposer vos messages, d'exprimer votre point de vue ou de pousser votre coup de gueule au 01 56 40 55 92. 0033 1 56 40 55 92. Rendez-vous donc dans 10 minutes, juste après le journal. Mais pour nous accompagner jusqu'au prochain journal, je vous laisse en compagnie de Mewé. Peace.